Entonces. Donc bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Et je suis émerveillé de la façon dont Dieu conduit les choses. D'avoir un culte qui est dédié sur les relations entre les frères et sœurs à travers le monde entier et sur l'Église, juste avant d'avoir à prêcher un passage qui va parler de l'Église en Actes chapitre 4 et Actes chapitre 5, je suis simplement émerveillé en fait. La façon dont Dieu conduit toutes choses, c'est vraiment, vraiment un plaisir. On peut être qu'encouragé par ça. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve ici encore une nouvelle fois dans le livre des Actes, donc qui est rédigé par Luc. On pourrait presque parler de deux Luc en fait. Et voilà, on parle de l'Église des premiers siècles. Et c'est vrai que ça nous pose la question, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on devrait vivre? Et qu'est-ce que nous rappelle ce texte par rapport à la vie de l'Église? Et je vous propose de le prendre, pour tous ceux qui ont une Bible, donc Actes chapitre 4, verset 32, à Actes chapitre 5, verset 11. Donc je vous encourage vivement à le prendre, c'est un texte qui est un peu long, mais il y a tellement de bonnes choses dedans, on va se régaler vraiment. Donc Actes chapitre 4, verset 32, jusqu'à Actes chapitre 5, verset 11. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Ça m'a vraiment fait du bien de travailler et de décortiquer ce texte. Parce que pour être franc, j'ai longtemps trouvé que la punition d'Ananias et Saphira était trop dure. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir aborder ce texte sereinement, je me devais de le regarder dans son contexte, avec une idée solidement ancrée. Dieu est le juste juge. Et j'aimerais que pendant tout le temps de cette prédication ce matin, on garde ça en tête. Dieu est le juste juge. Ne regardons pas ce texte au travers du prisme de notre propre moralité, influencée par notre société, par nos défauts. Regardons plutôt ce texte comme un texte qui doit nous enseigner plusieurs vérités et qui a pour but de nous en dire davantage sur Dieu et sur nous-mêmes. Donc il est important, comme je le disais, de replacer les choses dans leur contexte. On voit dans Actes chapitre 4 un combat qui vient de l'extérieur contre l'Église. On voit les responsables juifs qui s'en prennent à Pierre et Jean, qui leur disent de ne plus annoncer la parole. Donc on voit vraiment une difficulté. Et malgré ces difficultés, on voit l'Église qui vit des choses absolument exceptionnelles. Et en Actes chapitre 5, on voit que le combat, cette fois-ci, vient de l'intérieur. Alors, sachant que l'Église ne semble pas vouloir laisser, Satan ne semble pas vouloir laisser l'Église honorer Dieu et la louer et le louer, sachant que Satan a des plans qui cherchent à contrecarrer l'honneur qu'on veut faire à Dieu, la gloire qu'on veut donner à Dieu, je me suis posé cette question. Lequel de ces deux combats, intérieur, extérieur, peut-être les deux, lequel de ces deux combats est-ce qu'on vit? J'ai dû me rendre à l'évidence et le texte qu'on a entendu de la part de nos frères et sœurs ce matin nous ramène encore à cette évidence. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on ne vit pas un vrai combat extérieur. C'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu nous fait, je ne sais pas pourquoi, mais en France en tout cas, on ne vit pas un dur combat extérieur. Je parle ici vraiment de persécution de la société entière contre l'Église. Donc, à minima, le combat est au moins intérieur. Et ça, je pense que vous ne me contredirez pas. Il y a des choses qui se passent dans nos cœurs parce qu'on est des hommes et des femmes qui ne sommes pas encore totalement régénérés. Et il y a un combat qui est intérieur. Et en fait, si on ne prend pas ce combat au sérieux, il peut y avoir des conséquences catastrophiques pour l'Église. Ça me rassure de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ce passage. Certains théologiens renomment les actes des apôtres les actes du Saint-Esprit. Et on voit encore une fois dans ce texte la façon dont le Saint-Esprit agit dans le cœur des croyants, puis dans le cœur de Barnabas, et la façon aussi dont il révèle des choses à Pierre par la suite. Et je vois trois parties dans ce texte. Premièrement, l'exemple de l'Église, de Actes, chapitre 4, versets 32 à 35. Ensuite, l'exemple de Barnabas, dans les versets 36 à 37. Et enfin, l'exemple à éviter, en Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Les pratiques qu'on voit dans les deux premières parties, donc dans l'Église et avec Barnabas, elles contrastent tellement avec cette troisième partie de l'exemple à éviter, d'Ananias et Saphira. Et je me dis que, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui avec la Bible, c'est facile de le voir parce qu'on voit ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Et je me suis dit, s'il leur était rien arrivé, comment les gens de l'époque auraient pu faire une différence entre Barnabas, qui vient en disant « j'ai donné mon champ, le prix de mon champ », et Ananias et Saphira qui viennent aussi dire « j'ai donné la totalité du prix de mon champ ». S'il n'y avait rien eu, on n'aurait pas pu faire de différence. Et pour nous, en fait, on voit un contraste saisissant. Donc on va voir plusieurs choses dans ces différents textes, et c'est important de poser le contexte. C'est pour ça que le fait de prendre Actes chapitre 4, verset 32, et après de voir Ananias et Saphira, ça nous permet de poser tout un contexte qui va mettre en lumière tout ce qui se passe dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Si à un moment je prononce Ananas au lieu d'Ananias, vous ne m'en voudrez pas. D'accord. On commence par l'exemple de l'Église. On voit dans ce texte un rappel de l'attitude qui se passe déjà dans Actes chapitre 2. Dans les deux cas, on voit l'action de Dieu. Dans Actes chapitre 2, il est dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En Actes chapitre 4, une grande grâce reposait sur eux. Donc on voit des personnes qui donnent de leur bien, qui donnent de ce qui est fondamental. On pourrait considérer que la propriété, c'est fondamental. Et en fait, ils donnent ça. Et on voit des bénédictions. Mais là, dans Actes chapitre 4, il y a une indication supplémentaire. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je trouve cette expression absolument magnifique. Elle est révélatrice de la beauté de ce que doit vivre l'Église. Et ça nous interpelle. Est-ce qu'on est un ensemble de personnes réunies par une idéologie ou une religion commune? Ou est-ce qu'on vit une foi sincère qui fait de nous des frères et sœurs proches les uns des autres? Et est-ce qu'on pourrait vraiment dire qu'on est un seul cœur et une seule âme? On pourrait aussi se dire que c'est quelque chose finalement de spécifique à l'Église des premiers siècles. Et on pourrait même trouver des arguments pour légitimer ça. On pourrait se dire, ce texte, finalement, c'est un texte narratif. Ce qui est relaté dans ce texte, ce n'est pas normatif. Alors je vais expliquer ce terme, c'est dans le sens de, nous n'avons pas à reproduire avec exactitude parfaite toutes les actions qui sont relatées dans ce texte. Personne, ici, je crois, n'a vendu sa maison pour apporter aux anciens le prix de la vente et dire voilà, distribue ça à l'Église. Ou alors peut-être, mais je ne suis pas du tout au courant. C'est possible, hein, après tout. Et donc, vraiment, on pourrait se dire, ce texte n'est pas normatif, je n'ai pas du tout à vivre les choses qui sont dedans. Et pourtant, l'unité de l'Église qui nous est décrite ici, je suis absolument convaincu que c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui dans l'Église. Cette unité, elle se développe par l'action du Saint-Esprit qu'on laisse agir en nous. Et dans ce passage, cela se manifeste dans la suite du verset 32. Alors je vais vous montrer la traduction parole vivante. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Et on voit qu'ici, il y a une donnée fondamentale. Je ne suis pas seul au détriment des autres. Ce n'est pas juste moi qui compte. Et là, on comprend ce que signifie vraiment cette unité. Ce n'est plus moi, c'est nous. Nous sommes un. On vit une unité. On n'est qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et il y a un partage avec ceux qui sont dans le besoin. Alors, je ne connais pas précisément la situation économique des personnes de cette époque. Mais ça semble être un contexte de vie plutôt difficile. Et les chrétiens, en ayant cette notion de « nous ne sommes qu'un », n'arrivent même pas à envisager l'idée de ne pas partager avec celui qui est dans le besoin. Jacques, qui était l'un des anciens de Jérusalem, l'a tellement intégré dans son ADN de vie chrétienne que cela ressort dans son épître, en Jacques chapitre 2, versets 15 à 17. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Pour Jacques, quand il dit ça, il a tellement vécu dans son église le fait que le don était normal, que pour lui c'est une évidence. Et la question que je pose, c'est aujourd'hui, est-ce que pour nous c'est une évidence ? Est-ce que vivre cela, est-ce que vivre ce que vivaient ces chrétiens, cette unité, est-ce que ça fait partie de notre ADN de chrétien ? Est-ce que dans notre vie chrétienne, on se dit, ça serait impensable de ne pas vivre ça ? Et ça m'interpelle. Est-ce qu'on a vraiment à cœur de pourvoir de façon à ce que chacun dans l'Église ne manque d'absolument rien ? Je dois reconnaître que j'ai une grande joie lors de nos assemblées générales, au moment où on fait le bilan financier, de voir que notre Église a vraiment à cœur de pourvoir aux besoins des missionnaires et autres serviteurs de Dieu. Et là, je ne parle pas de fierté mal placée, mais d'une grande joie, une joie profonde, de voir que nos actions sont en adéquation avec ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. On doit continuer à prier Dieu pour qu'il mette en évidence, devant nos yeux, les besoins qui sont autour de nous. Et il n'y a pas que l'argent. Il y a l'accompagnement, il y a le soutien moral, il y a l'aide physique. Toutes ces choses auxquelles on doit être attentif, afin de veiller au bien-être de nos frères et sœurs. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un rappel. En lisant ce texte, j'ai pris une grande claque. Une claque à vivre ce que la Bible nous appelle à vivre. Il y a un chant qui dit « Nous voulons vivre l'unité ». Est-ce que c'est vraiment profondément mon désir ? Est-ce que je fais tout pour que Dieu puisse travailler en moi dans ce sens ? Bien souvent, je suis dans une attitude de moi d'abord. Et s'il me reste du temps, de l'argent, de la force, alors je vais commencer à penser à mon prochain. Je fais ou je donne finalement ce qui ne me coûte pas grand-chose, quasiment rien. Mais là, ce n'est pas l'exemple qu'on reçoit. Les gens vendaient leur maison. Et ça m'enseigne que si prendre soin de mes frères et sœurs me coûte, c'est normal. C'est intéressant aussi de voir que on ne prend rien en chrétien ici. C'est les chrétiens qui donnent volontairement. Si un mouvement, quel qu'il soit, vous force à donner par des pressions physiques ou morales, il y a un problème et il vaut mieux quitter ce mouvement. Le chrétien comprend que Dieu l'appelle à une nouvelle vie et ça a un impact sur ce qu'il fait volontairement. Dans ce texte, à aucun moment, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, ce qui est à toi est à moi ». C'est quelqu'un qui vient et qui dit « Écoute, ce qui est à moi est à toi ». Et ça change tout. Et on voit ici que cette attitude, elle provoque deux choses. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Finalement, par cette attitude, l'Église avait un impact positif, un témoignage cohérent de ce qui permettait aux apôtres donc de rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et aussi une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi est-ce que ce passage parle du témoignage de la résurrection de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas simplement du témoignage de Jésus ? de ce qu'il avait fait ou de ce que certains disaient l'avoir vu faire. En fait, Jésus, c'était un événement à l'époque. Ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem, tout le monde savait qui était Jésus. C'était impossible de passer à côté. Par contre, la vraie question, c'était, est-ce qu'il est ressuscité ou pas? Si oui, dans ce cas, ça confirme sa divinité. Sinon, s'il n'est pas ressuscité, alors c'est juste une personne de plus qui se prétendait être le Messie. Et la résurrection, elle a une deuxième importance capitale. Par la résurrection de Christ et par notre union à lui, on est, en tant que chrétien, dans une nouvelle vie, une vie transformée. Et c'est justement parce que nos vies sont transformées qu'on peut vivre et faire des choses comme celles que vivaient ces chrétiens des premiers siècles. Ce sont des choses qui semblent folles, mais qui rendent un témoignage puissant de qui est Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore peu de gens qui pensent que Jésus n'a pas réellement vécu. Par contre, la question, c'est quel statut il lui accorde. Et est-ce qu'il est vraiment ressuscité? La traduction parole vivante dit « La grâce de Dieu agissait avec eux tous ». On voit là que la grâce de Dieu s'exprimait dans cette assemblée parce que l'attitude de chacun rendait la situation favorable à l'action de Dieu. Alors on est tout à fait d'accord que Dieu peut agir comme il veut. Dieu est Dieu. Et il peut agir même dans des circonstances les plus défavorables. Mais ici, on a tout qui fonctionne bien ensemble. Tout le monde donne. Les apôtres font de grandes choses et ça bénéficie à toute l'Église. Les gens sont dans le besoin et voient Dieu qui pourvoit. Finalement, il y a un frère qui donne et plutôt que de dire c'est ce frère qui pourvoit, on rend gloire à Dieu. On se dit c'est Dieu qui pourvoit. Oui, par le biais de ce frère, mais c'est Dieu qui pourvoit. Et finalement, la gloire, elle revient à Dieu. Et nous, on est appelés par nos actions à révéler la gloire de Dieu, afin que ce soit lui qui reçoive les honneurs. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'Ananias et Saphira n'avaient pas compris. Dans le contexte de l'église de Jérusalem, on voit que la pensée de l'époque, comme c'est montré dans Jean chapitre 9, vous savez, avec cette histoire de l'aveugle, il était aveugle et tout le monde se demande, mais pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Et on voit qu'il y avait cette pensée, que quand on avait un problème, que ce soit la pauvreté, une infirmité, quand on avait un souci, on se demandait, mais qui est-ce qui avait péché? Et là, en fait, on voit que en donnant à ses frères qui étaient dans la pauvreté, on permettait de les restaurer dans leur dignité. Et c'est toujours valable aujourd'hui. En prenant soin de nos frères et sœurs, on permet aussi que Dieu les restaure. Et c'est tellement important de pouvoir avoir de la dignité. Ainsi, chacun est béni. Et on peut vraiment vivre cette unité dont il est parlé là. De quelle unité on parle si dans une même église, il y en a qui sont dans l'abondance et d'autres qui sont dans la pauvreté totale et dans le dénuement? De quelle unité on parle? Si on veut vivre l'unité, on doit pouvoir vivre ces choses-là. Et c'est quelque chose que, par la grâce de Dieu, on a pu expérimenter ce matin. Il se trouve que Sarah a une sinusite. Elle a dormi 2 heures cette nuit, elle est complètement KO. Et ce matin, elle me dit, mais je ne peux pas faire l'école du dimanche. Franchement, je ne suis pas en état, quoi. Il y a des frères et sœurs que je nommerai pas, mais qui, dans leur gentillesse, dans leur amour pour les frères et sœurs, ont accepté de prendre l'école du dimanche ce matin. Ils auraient pu dire non, franchement, non, moi je veux profiter de mon culte. Mais ils l'ont fait. Et merci à eux. On a d'autres exemples qui nous ont été donnés ce matin. Si on veut savoir où s'investir, il y a de la prière, il y a de l'accompagnement, il y a du soutien financier. Il y a des possibilités avec Porte Ouverte, avec d'autres œuvres. On peut trouver des moyens pour pouvoir vivre cette unité pleinement. Et on arrive à l'exemple de Barnabas. C'est un exemple concret qui sert 2 buts. Premièrement, pour nous montrer à nous, qui sommes lecteurs de cette lettre de Luc, que ça n'est pas juste un « on m'a dit que ». Ouais, on m'a dit que dans l'église de Jérusalem, il y en a qui donnaient. Non, là, on a un exemple concret. Et ça va permettre de contraster tellement davantage avec l'histoire d'Ananias et Saphira. En termes de date, on pense que Barnabas est mort vers l'an 61. Et il se trouve que cette lettre a été a priori écrite entre 63 et 70. Barnabas, pour les gens qui lisent la lettre, c'est pas un nom de légende. C'est pas un mythe. C'est quelqu'un qu'ils ont côtoyé, c'est quelqu'un qu'ils ont connu. Et ça rend cet exemple tellement plus proche pour eux. Et il y a un deuxième but, comme je vous le disais. C'était pour nous de comprendre qui était ce Barnabas, qui d'abord a été le mentor de Paul, puis son compagnon. De quoi est fait le cœur d'un homme de Dieu qui est zélé? Quel exemple est-ce qu'il nous laisse? Avant de partir pour la mission, Barnabas était déjà là à vendre ses biens pour que ça puisse profiter à chacun. Ce passage révèle le cœur de Barnabas avant de nous révéler plus tard dans le livre des Actes les actions de Barnabas. Ça nous rappelle que le Saint-Esprit travaille le cœur afin que l'action soit porteuse de fruits. Il faut qu'on se laisse transformer. C'est parce que le cœur a été transformé que l'action porte du fruit. Ça illustre tellement bien ce passage qui est dans Luc, chapitre 16, versets 10 et 11. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» C'est intéressant aussi de voir que Barnabas a un nom qui lui est donné par les apôtres, et qui signifie « le fils d'encouragement ». C'est beau de voir que ce nom nous encourage toujours aujourd'hui. C'est le même Barnabas qui, à un moment, est parti avec son cousin Jean, surnommé Marc, qu'on a fini par appeler Jean-Marc. C'était quelqu'un, à un moment, que Paul avait rejeté. Il disait « Non, je ne veux plus travailler avec lui ». Barnabas a dit « Si, moi, je vais continuer à travailler avec lui. Je pense qu'il y a quelque chose. » Et il a continué à travailler avec son cousin. Et on voit plus tard dans les Épîtres que Paul mentionne à nouveau Jean-Marc, mais de façon positive. Et on voit Barnabas qui a encouragé son cousin, qui l'a accompagné pour qu'il se restaure et qu'il reprenne sa marche avec Christ. Et on voit que ça a apporté quelque chose de bénéfique. Il a encouragé son cousin. Et je me demande, est-ce que nous aussi, l'exemple de Barnabas va nous encourager ce matin pour notre vie d'église et notre vie personnelle? Et est-ce qu'on va pouvoir vraiment vivre une vie qui est en accord avec l'enseignement des évangiles? Donc maintenant que le contexte est posé, maintenant qu'on a parlé de l'exemple de l'église, de l'exemple de Barnabas, on arrive à cette histoire sur l'exemple à éviter. Je vais quand même relire cette partie du texte. « Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens qui se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent ces événements. L'histoire d'Ananias et Saphira est particulière. Parce que, comme je le disais au début, elle peut nous sembler être une réponse trop dure envers une faute telle que le mensonge. Et en fait, il y a là plus que le mensonge. On a parfois l'impression de voir un Dieu qui a deux personnalités. Vous savez, le Dieu un peu juge, un peu sévère, qui punit dans l'Ancien Testament. Puis le Dieu tout doux, tout gentil, patient dans le Nouveau Testament. Quand on regarde bien dans l'Ancien Testament, il y a tellement de références au Dieu d'amour. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'appellation du juste juge, par exemple, qui est dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 4, verset 8. Le juste juge, c'est dans toute la Bible. L'amour de Dieu, c'est dans toute la Bible. Et je pense qu'on doit garder ça en tête quand on lit ce passage. Dieu ne change pas. Il y a un seul Dieu. De toute éternité, il est le même. Et il est cohérent dans chaque fibre de sa personnalité. Il est égal à lui-même. Il ne présente jamais la moindre contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors qu'on ne le comprenne pas toujours, c'est un fait. Que ses pensées ne soient pas nos pensées et que ses voix ne soient pas nos voix, c'est une vérité biblique. Clairement, on a parfois du mal à saisir ce que Dieu veut nous enseigner. Et parfois, des textes comme celui d'Ananias et Saphira nous paraissent vraiment obscurs. Et sans prétendre le moins du monde avoir saisi tous les tenants et les aboutissants de ce texte, parce que ça serait totalement faux et arrogant de ma part, je suis convaincu que si Dieu nous a révélé cet épisode, en inspirant par son esprit ce cher docteur qu'est Luc, ça veut dire qu'en creusant et en méditant le texte, on peut y discerner des choses qui nous rapprocheront de lui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et je dois reconnaître qu'en lisant ce texte de nombreuses fois, en le méditant, en consultant diverses sources, j'ai l'impression d'avoir saisi une vérité essentielle à ma compréhension de ce passage. Et le point qui est ici capital, pour moi, c'est la sainteté de Dieu. Dans toute la Bible, Dieu appelle son peuple à être saint. On voit en Lévitique, chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et aussi en 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, où il y a ce rappel, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » J'ai volontairement pris un exemple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour voir que c'est un fil conducteur de toute la Bible. La sainteté de Dieu ne change pas. Et là, on est au début de l'Église primitive. Dieu a fait plein de choses merveilleuses. Il a appelé des personnes pour présenter qui il est, et surtout pour annoncer que le Messie est venu et qu'il est ressuscité, comme on l'a vu au chapitre 4. Et on voit Ananias et Saphira arriver et faire ce qu'ils font. Et c'est dangereux pour l'Église, particulièrement dans ce moment des débuts de l'Église. Alors je ne dis pas que ça serait moins grave aujourd'hui, mais dans cette naissance de l'Église, il n'y a pas de place pour ce genre d'attitude. La décision de Dieu est-elle trop sévère? Mais quand on regarde comment Dieu a agi avec Adam et Ève, comment Dieu a agi avec les hommes qui étaient du temps de Noé, comment Dieu a agi avec Saül, comment Dieu a agi avec les fils d'Élie le sacrificateur. Est-ce que ce Dieu qui ne change pas se devrait d'agir différemment parce qu'on est dans le Nouveau Testament et que ce n'est pas tout à fait raccord avec notre vision actuelle de Dieu? Il y a un point important à soulever dans ce texte. Le texte ne nous dit pas qu'Ananias et Saphira n'étaient pas chrétiens. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que des chrétiens peuvent avoir ce genre d'attitude. Il n'y a aucun indice qui nous laisse penser qu'Ananias et Saphira n'étaient pas chrétiens. Et il y a un deuxième point très important. La mort dont on nous parle ici, c'est une mort terrestre. À aucun moment, on nous parle de la perte du salut ou d'une mort éternelle. Et sans vouloir atténuer la punition, je pense que cela révèle que le péché d'Ananias et Saphira n'avait vraiment pas sa place dans l'Église naissante. Et ça a une importance capitale. Dieu, pour son Église des premiers siècles, voulait que la sainteté règne. Et laisser ces mauvaises graines se développer aurait été complètement destructeur. Et je suis convaincu que nos mauvaises actions, nos mauvais comportements, nos pensées malhonnêtes entachent l'Église. Je pense que c'est ceux qui cherchent vraiment à honorer Dieu, ceux qui se laissent transformer par Dieu, ce sont eux qui présentent un beau témoignage à tous pour pouvoir annoncer que Christ est ressuscité. Dans cette partie du texte, il y a plusieurs choses à soulever. Premièrement, le reproche qui est fait à ce couple n'est pas de ne pas avoir tout donné. Et c'est très important. Pierre dit, le champ était à vous. Vous pouviez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez pas le vendre, vous ne le vendez pas. Si vous voulez le vendre et garder une partie, mais c'était votre champ. Vous faisiez comme vous voulez. Ils avaient la liberté de le faire. Ils avaient la liberté de garder une partie et de dire, voilà, on a vendu le champ et on vous en donne une partie. Et franchement, on voit l'exemple de Barnabas et c'est magnifique. Mais quelqu'un vend un champ et vient en donner une partie, on se dirait déjà, mais c'est top, merci beaucoup. Mais en fait, quand Barnabas fait ce qu'il a fait, il voulait la gloire de Dieu. Quand Ananias et Saphira font ce qu'ils ont fait, ils voulaient leur propre gloire. En cherchant à mentir à Pierre, ils ont menti à l'Esprit-Saint. Ils sont passés à côté de la sainteté que Dieu demande. Parce que ce que Dieu demande, ça n'est pas l'argent. Ça n'est pas l'action elle-même. C'est le cœur saint et bien disposé duquel découle l'action. Le don n'est pas ici le but. Le don, ça n'est que le témoignage visible de ce que Dieu fait dans le domaine invisible. Combien de fois est-ce qu'on cherche les louanges? Combien de fois est-ce que par nos actions, on espère la reconnaissance des autres? Combien de fois est-ce qu'on espère que les gens disent « Regarde, il a tout donné ». Alors, chercher un encouragement, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ça le devient si ça passe avant le fait d'obéir à Dieu et de vouloir honorer et glorifier Dieu. Et comment peut-on honorer un Dieu saint autrement qu'en le laissant nous sanctifier? Est-ce qu'on se ment à nous-mêmes en nous persuadant qu'on donne tout à Dieu? Ou alors est-ce qu'on est vraiment lucide sur nous-mêmes? Alors, je ne prône pas l'ascétisme du tout. On voit le sage Ecclésiaste qui nous rappelle que ce que Dieu nous donne sur cette terre, c'est une grâce. Et on doit se réjouir profondément de ce que nous ne manquons de rien. Mais on doit veiller à ce qu'à côté de nous, il n'y ait pas des frères et sœurs qui soient dans le besoin. Parce que ça n'aurait pas de sens. On voit Pierre, lorsqu'Ananias, qui se présente seul devant lui, lui reprocher à lui seul d'avoir fait cette faute-là et d'avoir menti au Saint-Esprit. À ce moment-là, Ananias est seul à prendre le blâme. Et on remarque aussi que Pierre, lui, ne prononce aucune sentence contre Ananias. Si on regarde bien le texte, je vous encourage à le lire. Pierre, à ce moment-là, ne prononce aucune sentence contre Ananias. Et ça nous rappelle que c'est Dieu qui décide de la sentence. Et à cause de ça, on ne peut pas se permettre de juger de la dureté de cette sentence. Si Dieu, qui est le parfait juge et qui ne commet aucune faute de jugement, si c'est lui qui prononce la sentence, alors on n'a rien à dire. Et on voit que Pierre est témoin de la punition d'Ananias. Et il comprend comment ça se passe. C'est pour ça qu'il explique après à Saphira qu'en fait ça va mal se passer pour elle. Puis donc il y a Saphira qui arrive et Pierre lui repose la question sur le montant de la vente. Et à ce moment-là, Saphira elle est face à un choix. Elle pourrait soit suivre son mari et fauter, soit dire non, c'est vrai, t'as raison. En fait, on ne l'a pas vendu à ce prix-là et on a essayé de le... Non, c'est pas honnête. Elle aurait pu ne pas mentir. Mais à ce moment-là, à ce moment précis, quand Pierre pose la question, Saphira n'a pas encore fauté. Elle faisait partie de la manigance, mais elle pouvait revenir de ça. Mais là, elle soutient le mensonge de son mari et elle devient solidaire de la faute de son mari. Dans nos traductions, on a le terme « se mettre d'accord ». La Bible Summer traduit par « se concerter ». La version Darby dit « convenu ». Et en fait, le terme grec, c'est le terme qui est à l'origine du mot « symphonie ». C'est « qui parlait d'une même voix ». Et en fait, il est intéressant de noter un contraste saisissant entre d'un côté l'unité que vivait l'Église et qui avait pour fruit la grâce de Dieu, et l'unité que vivent Ananias et Saphira et qui a pour conséquence la mort. C'est vraiment, je trouve, intéressant de voir ce contraste-là. Et ça nous montre que quelles que soient les personnes à qui nous sommes unis, que ce soit nos conjoints, que ce soit nos amis, qui que ce soit, la sainteté de Dieu passe avant toute chose. Et notre fidélité va à Dieu avant toute chose. Je ne sais pas si Jacques avait en tête cette histoire, quand il dit en Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, « Mais chacun, lorsqu'il est tenté, est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Je pense que Jacques savait de quoi il parlait. Il avait un exemple saisissant du déroulement de ce qui s'était passé là. Mais si Saphira avait renoncé, si elle n'était pas restée solidaire de la faute de son mari, on ne sait pas ce qui se serait passé. Peut-être qu'elle ne serait pas morte. En tout cas, ça a eu un impact énorme sur l'Église. Par deux fois, il est parlé de la crainte que les gens ont éprouvée. La première fois au verset 5 et la seconde fois au verset 11. Et je pense qu'il est très important pour nous de bien saisir ce que c'est que cette notion de crainte. Ce n'est pas de la peur. C'est différent. La crainte, il y a cette notion de respect qui est présente. Et l'Ecclésiaste nous explique que la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Il y a un verset magnifique en Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 et 14. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. » Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Là, clairement, parfois on ne comprend pas tout. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière, afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Et pour voir ce qu'il est advenu après cette crainte, parce qu'on pourrait se dire cette crainte, à quoi elle a servi, on arrive aux versets 13 et 14, qui ne font pas partie du texte que j'ai lu au début, mais qui sont une conséquence de tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant de les lire, parce que sinon on ne va pas pleinement comprendre tout ce qu'il y a. Versets 13 et 14, donc de Actes chapitre 5, « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Aussi fou que ça puisse nous paraître aujourd'hui, cet épisode-là a été un facteur de croissance pour l'Église. Un prédicateur qui prêchait justement sur Ananias et Saphira a intitulé son message « La soustraction qui mène à la multiplication ». En tant que prof de maths, forcément j'ai aimé. Mais je trouve que c'est éloquent de la façon dont la sagesse de Dieu est à l'œuvre. Là où on trouverait trop dur la sentence de ce couple, on voit que Dieu, en jugeant justement leurs actions, à préserver l'Église d'avoir des personnes mal intentionnées, des personnes qui auraient été attirées par un gain facile. Vous imaginez, tout le monde est en train de vendre ses biens Et si tu viens et que tu manques, ben, on te fournit des choses. Personne mal intentionné pourrait carrément venir et dire oh, « Moi, il me manque plein de trucs, allez-y, donnez-moi, quoi. » Dieu a préservé l'Église de ça. Et cela nous encourage à ne pas faire de compromis. En tant qu'Église, on ne doit pas faire de compromis avec la sainteté. On vit dans une époque où on pourrait être tenté par le compromis. Pour être plus attractif, pour être dans l'air du temps, pour avoir plus de personnes qui franchissent le seuil de cette porte, pour que notre Église grandisse. On peut parfois songer à atténuer les vérités et les commandements de Dieu, car ils nous semblent trop durs. Mais Dieu nous montre encore une fois qu'en nous laissant sanctifier par lui, en étant juste et droit, en exerçant la discipline dans l'Église, alors c'est lui qui se chargera de faire grandir son Église par le témoignage de la résurrection de Jésus. Nous ne sommes pas des commerciaux de Dieu. Nous ne devons pas rendre plus attractive la vérité, quitte à en masquer une partie. Nous sommes appelés des ambassadeurs. On doit témoigner avec justesse et vérité du message de la parole, en restant fidèle à cette parole. Et le travail des cœurs, la croissance, c'est Dieu qui l'opère, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce qu'on veut voir l'Église grandir? Alors soyons saints. En conclusion, je dirais qu'il y a plusieurs points à retirer de tout ça. Tout d'abord, on a cet appel à prendre soin les uns des autres, en donnant de l'argent, du temps, de l'énergie, de notre qualification dans un domaine particulier. Donner fait grandir l'Église. Et ça révèle une part de la grâce de Dieu qui prend soin de chacun de nous. Ensuite, ça nous révèle aussi que les chrétiens peuvent donner pour de mauvaises raisons et qu'en toute chose, on doit chercher à honorer Dieu et non nous-mêmes. Ça nous rappelle aussi que nous devons maintenir la sainteté dans l'Église. À l'image de Paul, vous savez, qui a repris les Corinthiens par rapport à l'attitude d'une des personnes de l'Église qui agissait mal avec sa belle-mère. On ne doit pas hésiter à maintenir la sainteté dans l'Église. Pourquoi ? Parce que la sainteté conduit à la croissance. Je ne sais pas pour vous, mais toutes ces choses qu'on peut retirer de ce passage m'encouragent dans ma vie de tous les jours. Et ça me pousse à vraiment vouloir continuer à creuser la parole. Même les passages qui semblent difficiles. Ce Dieu a tellement de choses à nous apprendre que le jeu en vaut la chandelle. Alors est-ce qu'on a envie de se relever ce défi ? Alors est-ce qu'on a vraiment envie de pouvoir être un peuple saint ? Pour voir l'Église de Dieu grandir, parce que ça se fera pour sa gloire et sa gloire seulement. Merci à tous.